Respirons profondément. Un tramway brinque-balle sous ma fenêtre. Encore un qui descend la porcelaine glacée. Les tramways montants sont plus silencieux. Ou peut-être y en a-t-il moins, tout simplement. Qui sait? Il est possible que la municipalité souhaite amener les consommateurs vers le centre sans se soucier de les ramener ensuite chez eux. Il y a quelque chose de musical dans ce brinque-ballement. Quelque chose du chemin de fer d'Alcan, en plus lent. Charles-Valentin Alcan, maître oublié du piano, ami de Chopin, de Liszt, de Heinrich Heine et de Victor Hugo. Alcan dont on raconte qu'il est mort écrasé par sa bibliothèque en attrapant le Talmud sur une tablette. J'ai lu récemment que c'était sans doute faux. Une légende de plus à propos de ce compositeur légendaire, si brillant qu'on l'oublia pendant plus d'un siècle. Il semble qu'il soit mort écrasé par un porte-manteau ou par une lourde étagère sur laquelle on rangeait les chapeaux. Le Talmud n'avait rien à voir là-dedans, a priori. En tout cas, son chemin de fer pour piano est absolument virtuose. On y entend la vapeur, le grincement des premiers trains. La locomotive y galope à la main droite et ses bielles roulent sous la gauche. Ce qui donne une impression de démultiplication du mouvement, ma foi assez étrange, et à mon avis atrocement difficile à jouer. Kitsch, aurait asséné Sarah. Très kitsch, cette histoire de train. Et elle n'aurait pas eu complètement tort. Il est vrai que les compositions programmatiques imitatives ont quelque chose de suranné. Pourtant, il y aurait peut-être là une idée d'article. Bruit de train. Le chemin de fer dans la musique française. En ajoutant à Alcan la Pacifique 231 d'Arthur Honegger, les essais de locomotive de Florent Schmitt l'orientaliste, et même le chant des chemins de fer de Berlioz. Je pourrais moi-même composer une petite pièce, tramway de porcelaine, pour clochette, zarbe, et bol tibétain. Il est fort possible que Sarah trouve cela du dernier kitsch. Est-ce qu'elle verrait l'évocation du mouvement d'un rouet, la course d'un cheval ou la dérive d'une barque tout aussi kitsch? Sans doute pas. Je crois me souvenir qu'elle appréciait comme moi les leaders de Schubert. En tout cas, nous en parlions souvent. Le madrigalisme est définitivement une grande question. Je n'arrive pas à m'enlever Sarah de la tête. Dans la fraîcheur de l'oreiller, du coton, de la tendresse des plumes. Pourquoi m'avait-elle traîné dans cet incroyable musée de cire, impossible de m'en souvenir? Sur quoi travaillait-elle à ce moment-là, au moment de mon installation ici, alors que j'avais l'impression d'être Bruno Walter, appelé pour seconder Mahler le Grand à l'Opéra de Vienne 100 ans après? Revenu victorieux d'une campagne en Orient, à Damas précisément, j'étais mandé pour seconder mon maître à l'université. Et j'avais presque immédiatement trouvé ce logement, à 2 pas du magnifique campus où j'allais officier. Appartement certes petit, mais agréable, malgré les grattements de l'animal de Herr Gruber, et dont le canapé-lit, quoi qu'en dise Sarah, était tout à fait honorable, la preuve. Quand elle était venue pour la première fois, au moment de cette visite étrange au musée des belles découpées, elle y avait dormi 1 semaine au moins sans s'en plaindre. Enchantée de voir Vienne. Enchantée que je lui fasse découvrir Vienne, disait-elle. Même si c'était elle qui me traînait dans les endroits les plus insoupçonnés de la ville. Bien sûr, je l'ai emmenée voir la maison de Schubert et les nombreuses demeures de Beethoven. Bien sûr, j'ai payé, sans lui avouer, en lui mentant sur le prix, une fortune pour que nous puissions aller à l'opéra. Le Simon Boccanegra de Verdi, plein d'épée et de fureur dans la mise en scène de Peter Stein le Grand. Sarah était ressortie enchantée, ébahie, époustouflée par le lieu, l'orchestre, les chanteurs, le spectacle. Dieu sait pourtant que l'opéra...